Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Salazar, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde par Jean-Guy Lermèche. Dernier volet donc de notre série consacrée aux enjeux sécuritaires en Afrique. Après avoir parlé du poids politique des armées nationales lundi, de l'influence des puissances étrangères et en particulier celle de la France et des États-Unis sur la sécurité du continent mardi et des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ça c'était hier, nous parlons aujourd'hui de la coopération militaire entre les puissances africaines, Somalie, Lac Tchad, Sahel, quand les armées africaines s'unissent.
Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur.
Libérer les pays voisins, on y va.
On va. En tant que votre commandant de la force, je suis ici pour vous dire que je suis content de ce que vous faites en tant que secteur 1, en tant que force multinationale mixte. Nous devons continuer avec le moral jusqu'à la fin. Tant que ce n'est pas fini, on restera là.
Et en juin dernier, la force multinationale mixte, une coalition militaire d'environ 9000 hommes issus du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Bénin, lançait une vaste offensive sur les rives du lac Tchad contre Boko Haram, la secte islamiste. Une tentative de plus de mettre fin à la terreur imposée depuis plus de 6 ans par les djihadistes dans cette région du nord-est du Nigeria. L'emprise territoriale de Boko Haram, qui s'étend également au Niger et au Cameroun, a certes régressé, mais la menace demeure. La coordination régionale, renforcée à l'été 2015, ne semble pas en mesure de sécuriser cette zone où 2,7 millions de personnes ont fui la guerre, en tout cas selon les Nations Unies. Alors que la force africaine en attente, la FFA, l'armée de l'Union africaine, n'est toujours pas opérationnelle et que l'intervention française au Mali en 2013 a joué comme un révélateur de la faiblesse structurelle des armées africaines, comment les coalitions régionales peuvent-elles répondre aux défis sécuritaires? Nous parlerons également de la Somalie, la MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, lancée en 2007, montre-t-elle que le continent africain est prêt désormais à prendre en charge sa sécurité? Voilà les questions que l'on va se poser ce matin pour se faire deux invités avec nous. D'abord Sonia Le Gourielec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris. Vous êtes également chercheuse à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, et puis vous préparez un numéro spécial d'Afrique Contemporaine sur les armées d'Afrique. À vos côtés, Sédi Kaba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste, chroniqueur au Monde Afrique. Vous étiez l'un et l'autre, justement, au Forum de Dakar, Forum international sur la paix et la sécurité, troisième édition, qui avait pour thème l'Afrique face à ses défis sécuritaires, regard croisé pour des solutions efficientes. Il a été question de nombreux sujets. On a parlé de la nécessité de renforcer les capacités des armées nationales, de repenser les opérations de maintien de la paix dont on parlait hier et dont on a vu que c'est pas toujours de grandes réussites, le Mali en étant évidemment un exemple parmi tant d'autres. Comment est-ce que vous avez vécu ce troisième forum? Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion finalement de cette réunion? Et puis quelle place avait cette question qui va nous intéresser ce matin de la coopération régionale militaire? Sonia Le Gourielec, on commence avec vous?
Oui. Voilà, il faut rappeler déjà que c'est un forum informel, donc il n'y a pas de décision politique ou de discours, de résolution.
C'est des discussions.
Voilà, ce sont des discussions. Donc là-dessus, il y a eu effectivement des discussions en bilatéral entre les officiels, entre les chercheurs, les journalistes aussi, qui peuvent tous se retrouver pour parler de ces questions de façon informelle. Moi, j'ai retenu une chose, c'est déjà l'accent qui a été mis sur la prévention. Ça a été beaucoup rappelé par les différents intervenants, avec un discours très fort aussi du président sénégalais Macky Sall au début, en ouverture du forum de Dakar, qui a rappelé ce qu'était l'islam, qui est différent des fondamentalistes, etc. Et donc l'importance aussi de former les jeunes, d'éduquer des citoyens, de comprendre pourquoi des jeunes s'engagent dans des groupes terroristes. Moi, j'ai retenu ça a été vraiment rappelé plusieurs fois, la prévention, comment prévenir, comment déradicaliser, etc.
Accent sur la prévention, et en même temps, vous me disiez juste avant de commencer cette émission qu'il n'y avait peut-être pas autant de chefs d'État et de gouvernement qu'on aurait pu imaginer.
Effectivement, à la fin, lors de, du panel des chefs d'État, il y avait effectivement Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, le premier ministre du Mali, du Togo, le vice-président de la Libye et le président du Cap-Vert, je ne sais pas si j'en oublie. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait, il n'y avait pas forcément des représentants, le président du Mali ou du Niger, ou Déby n'a pas fait le déplacement. Et c'est vrai que le forum reste quand même très orienté.
L'Afrique de l'Ouest était très absente, voilà. L'Afrique de l'Est, hein, pas de corne africaine.
Et c'est vrai que le forum serait très orienté sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest.
Sédi Kaba, vos impressions sur ce forum ?
Non, je crois que le forum a permis d'aborder des questions importantes. Pour la première fois, comme il vient d'être dit, la question doctrinale a été discutée. Et la question de la doctrine, présenter l'islam, qu'est-ce que l'islam, la place de l'islam. Pendant très longtemps, cette question a été évacuée dans les pays africains et il est important d'y revenir pour permettre justement le travail de prévention. Et de ce point de vue, l'apport du Maroc avec la création de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams, qui forment des imams de plusieurs pays africains, par exemple le Mali a signé un accord pour former 500 imams, d'autres pays africains, combattre le radicalisme violent sans les armes. Ça a été un des sous-thèmes du colloque. Il y a eu une discussion intéressante sur cette approche-là, combattre le radicalisme violent sans les armes. C'est une approche innovante qui a été présentée au forum. L'autre aspect, je pense, qui m'a beaucoup interpellé pour avoir fait les autres éditions, c'est la prise en conscience par les partenaires des armées africaines de la nécessité de l'équipement. Jusqu'ici, on a mis le focus sur la formation. Et on s'est aperçu avec l'expérience du Mali que former les gens sans les équiper est un vrai problème. Donc là, Jean-Yves Le Drian a dit que, par exemple, la France a une stratégie de cession des équipements. Il est important justement d'aller vers cette dimension de cession des équipements. Et dernière chose, il a été rappelé, c'est la nécessité de réaffirmer la coopération entre les armées africaines. La menace est transfrontalière et la réponse doit être transfrontalière. Donc si cela n'est pas fait, c'est clair qu'on en restera toujours au résultat qu'on a aujourd'hui.
Alors justement sur ce point, et puis ensuite on passera à ce front entier. Boko Haram avec vous, Sédi Kaba, mais est-ce que vous diriez que globalement, l'Afrique est de moins en moins dépendante des puissances extérieures pour répondre aux défis sécuritaires ? Et quand je dis puissances extérieures, c'est pas forcément des puissances hors Afrique, hein, ça peut être également justement des puissances voisines. Ou est-ce que vous sentez au contraire, qu'elle est de plus en plus, que ces pays africains sont de plus en plus dépendants justement de l'extérieur ?
Non, je crois que, par exemple, le président Sall a rappelé une des conditions de la coopération entre les pays africains, c'est qu'il faut qu'il y ait des armées nationales d'abord, elles-mêmes qui soient bien formées. Pour travailler entre les différentes armées, il faut, et sur ce point-là, c'est une sorte de mea culpa, il a dit que dans plusieurs pays africains, les armées ne sont pas équipées, ne sont pas professionnelles. Donc, pour aller, justement, pour éviter de dépendre de l'extérieur, il faut commencer d'abord au niveau des différentes armées africaines.
Mais est-ce que vous considérez qu'il y a des progrès de ce point de vue-là ?
Oui, il y a des progrès parce qu'il y a une prise en compte, de plus en plus, les gens ont pris conscience du danger que la menace extérieure représente. Pendant longtemps, dans certains pays, pour des raisons politiques, il y a eu de la méfiance envers les armées en considérant qu'elles étaient un facteur de coup d'État, un facteur d'instabilité, que les militaires étaient aux aguets pour prendre le pouvoir. Donc, je pense qu'il y a de moins en moins cette représentation à évoluer et aujourd'hui, on arrive dans la situation où les pays prennent conscience de la nécessité de donner les moyens qu'il faut aux différentes armées pour être opérationnelles, pour envisager la coopération entre les pays africains.
Sona Le Gourilec.
Oui, moi je pense qu'on est dans une période de transition, donc c'est pour ça qu'on a tendance parfois à voir les problèmes d'efficacité des armées africaines, etc. Mais parce que il y a plus systématiquement une intervention des puissances extérieures à l'Afrique. Depuis le début des années 2000, le mantra c'est vraiment l'africanisation des opérations de paix, des opérations militaires et des opérations de paix. Donc aux Africains de faire la sécurité. Et donc la priorité c'est d'abord que eux interviennent. Effectivement, ça met en évidence parfois des problèmes d'efficacité militaire ou de professionnalisation. Mais ça va venir aussi au fur et à mesure. Et donc la professionnalisation, je trouve que c'est quelque chose qui a été souligné tout le temps finalement lors du forum de Dakar. Ça passe par les moyens financiers de financer les troupes, par des moyens techniques, capacitaires, savoir les utiliser, les former, etc. Donc on est dans une période de transition et on va y arriver.
Alors on va parler de cette question de la coopération. Sédi Kaba, d'abord cette coopération régionale contre Boko Haram, la secte islamiste à l'époque de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La coopération militaire avec les pays voisins ne semblait pas être une priorité pour lutter contre Boko Haram. Il faut aussi d'ailleurs peut-être rappeler que les relations, notamment avec, je pense, au Cameroun, avec Paul Biya, étaient extrêmement difficiles. Les relations n'étaient pas bien meilleures avec le président tchadien Idriss Déby. Quand l'actuel président Mouamadou Bouhari est arrivé en mai 2015, beaucoup de choses ont changé. D'abord à l'intérieur du pays, il y a une vraie refonte de l'armée. On a lancé des centaines d'enquêtes au sein de l'armée. On a révoqué certains militaires. D'autres ont même été envoyés en prison. Et puis, il y a aussi eu un travail sur le plan de la coopération régionale. Bouhari s'est très vite rendu au Tchad et puis au Cameroun. Et très rapidement, il a mis donc en place cette force multinationale mixte, donc avec le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Bénin. Ça, c'est vrai que ça a été un véritable tournant dans la lutte contre Boko Haram. Alors, tout n'est pas réglé, mais les premiers reculs significatifs de Boko Haram sont venus avec cette mise en commun des moyens quand même, Sidi Kaba.
Absolument, c'est tout à fait exact. Comme vous faites bien de rappeler qu'il y a eu une erreur d'appréciation de la part du gouvernement de Jonathan qui a estimé que le grand Nigeria pouvait se passer de ses voisins, que c'était mal vécu, par exemple, qu'un pays comme le Niger, avec ses 17 millions d'habitants, avec ses difficultés économiques, viennent à la rescousse du tout-puissant Nigeria avec ses 160 millions d'habitants, ses 2 millions de barils par jour. Donc,
Première économie de l'Afrique.
Ça a été, dans un premier temps, il y a eu cette erreur d'appréciation de la part du gouvernement de Jonathan, pendant que les Boko Haram profitaient pour mettre des cellules dormantes dans les autres pays de la sous-région. Le gouvernement du Nigeria a commis cette erreur d'appréciation en considérant qu'il pouvait venir à lui tout seul à bout de ce phénomène et a évité d'avoir, comme il a été dit, une coopération avec le Cameroun compte tenu du contentieux historique sur Bakassi et soupçonner le Tchad de servir de base arrière. Donc il y a eu cette erreur d'appréciation et l'arrivée de Bouhari a été un tournant parce que la décision de Bouhari, par exemple, même si elle est symbolique, de transférer le commandement des forces armées du Nigeria de Abuja à Maiduguri, qui est l'épicentre des activités de Boko Haram, a été très très importante. Mmh. Elle a permis au Nigeria de libérer la partie du territoire. Depuis l'arrivée de Bouhari, le Boko Haram n'a plus une ville qu'il contrôle véritablement. Il y a des actions sporadiques en se cachant dans la forêt de Sambisa et ailleurs, mais cette prise en compte, ce tournant, ce changement d'appréciation au niveau de Abuja a permis justement d'avoir les résultats que l'on a aujourd'hui.
Alors justement, faisons peut-être un point, Sidi Kaba. Effectivement, regardons quelle est la situation dans les rangs de Boko Haram aujourd'hui, dans quelle mesure le groupe a-t-il été affaibli et s'il est affaibli, est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'éradication? Parce qu'en ce moment, on a des forces de l'armée nigériane et leurs homologues camerounais qui sont en train de ratisser justement cette fameuse forêt de Sambisa qui est un océan végétal qui est le véritable sanctuaire de la secte. Est-ce qu'il est possible d'éradiquer Boko Haram? Pas seulement de l'affaiblir, de l'éradiquer.
Oui, nous sommes la première phase qui est la phase militaire, qui est la phase de reconquête des territoires que Boko Haram avait pris. Cette phase est quasiment terminée. Boko Haram ne contrôle aujourd'hui aucune ville, alors qu'il n'y a pas si longtemps, le drapeau de Boko Haram flottait sur certaines villes du Nigeria. Donc cette phase est complètement terminée. Maintenant, il reste une deuxième phase qui est plus axée sur le renseignement, l'identification. Cette phase va prendre du temps. C'est une phase qui va absolument prendre du temps parce que les pays n'ont pas les capacités de renseignement qu'il faut. La confiance a été rompue entre la population et les forces de sécurité, notamment au Nigeria, parce qu'il y a eu des exactions, il y a eu des brimades, tout ça. Donc, il y a un travail de reconstruction de cette confiance qu'il faut faire. Donc, il y a cette dimension renseignement, etc., qui va prendre du temps. Mais il y a la troisième dimension, qui est une dimension développement. Parce qu'il n'est pas, il est utile de souligner que toute la partie, toute cette partie du lac Tchad qui est infestée par Boko Haram, où Boko Haram a de l'emprise, c'est la partie qui est la moins développée. Le sud-est du Niger, la région de Maiduguri, le nord du Cameroun. Donc, il y a cette partie.
Mais la solution ne sera pas seulement militaire. Il va falloir penser le développement économique et social de ces territoires sur lesquels a émergé évidemment ce groupe islamiste.
Et il faut avoir conscience de cela. Si on n'articule pas les différentes réponses, la réponse sécuritaire, la réponse militaire et la réponse en termes de développement, Boko Haram, l'éradication de Boko Haram risque de prendre plus de temps qu'on ne l'envisage aujourd'hui.
Sidi Kaba, vous avez parlé de la question du renseignement. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce point-là. Parce que paradoxalement, effectivement, la mise en commun des moyens moyens militaires, c'est aussi un moment où le groupe islamiste a changé sa stratégie. C'est-à-dire que il était plutôt resté actif sur le territoire nigérian et seulement sur le territoire nigérian dont il est originaire, mais il s'est mis aussi à frapper les pays voisins. Je pense au Tchad, je pense au Niger, justement, je pense également au Cameroun. Donc on voit que cette mise en commun des moyens, elle a provoqué une forme de régionalisation des conflits, et puis on a fait autre chose, c'est-à-dire que on s'est aussi mis à faire beaucoup d'actions terroristes, des attentats. Or, évidemment, c'est pas du tout la même chose que d'aller dénicher des djihadistes cachés dans la forêt de Sambisa et de faire tout le travail de renseignement qui va vous permettre, justement, d'éviter ces fameux attentats terroristes. Alors, qu'en est-il très concrètement, de cette coopération entre les différents pays sur le plan du renseignement? Est-ce qu'on a pris justement conscience de cette modification de la stratégie de Boko Haram et est-ce qu'on se met vraiment à échanger, à mutualiser les informations?
Non, je pense que ça, c'est la principale faiblesse aujourd'hui de la force mixte multinationale, la question du renseignement. Parce que les capacités de renseignement internes, pour pouvoir mettre en commun les renseignements, il faut d'abord que les capacités de renseignement internes existent. Dans certains pays, pendant très longtemps, les renseignements ont été orientés vers la surveillance des opposants, vers la surveillance des critiques du régime. On n'a pas perçu la vraie nature. Et cette culture du renseignement, cette faiblesse qui faisait qu'on surveillait plus des opposants que des menaces nouvelles telles que Boko Haram ou d'autres, a fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays qui sont concernés par ce phénomène de Boko Haram, il y a une faiblesse du renseignement et on n'a pas réussi à mutualiser, en tout cas pas autant qu'il faut. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'aide de l'extérieur, l'aide des pays, des partenaires, par exemple, il n'est pas un hasard si le QG de Barkhane, le quartier général de Barkhane est en N'Djamena et le quartier général de la force mixte multinationale est en N'Djamena. Donc, il y a une possibilité de faire des passerelles pour aider les pays à avoir leur service de renseignement. La montée en puissance des services de renseignement de ce pays-là. Parce que il y a d'abord les renseignements humains. Comme j'ai dit, dans la plupart de ces pays-là, souvent les forces de sécurité, les forces armées ont commis des exactions sur les populations qui ont rompu la confiance, qui font que la collecte du renseignement humain est devenue difficile. Et malheureusement, les pays n'ont pas autant de moyens pour avoir le renseignement technique, pour faire des interceptions d'écoute, pour faire de la surveillance avec des drones, etc. Ils n'en ont pas. Donc, pour l'instant,
On compte sur l'extérieur. Mais justement, vous rappeliez effectivement cette proximité géographique de cette entité régionale africaine et de l'opération Barkhane qui, rappelons-le, a pris la suite de l'opération Serval au Mali et Épervier au Tchad et qui est donc censée organiser, chapeauter cette lutte antiterroriste dans toute cette région saharo-sahélienne. Dans quelle mesure est-ce que justement cette entité régionale créée pour lutter contre Boko Haram est coordonnée avec l'action de l'armée française dans cette opération Barkhane? Il y a vraiment des échanges d'informations, il y a des canaux par lesquels on peut se parler.
Je crois que ça reste...
Ça ne suffit pas, la proximité géographique.
La proximité géographique ne suffit pas et aujourd'hui encore, la coopération est un peu timide. En tout cas, elle n'est pas à la mesure des défis que cela représente. Il y a des officiers de liaison qui sont détachés auprès de Barkhane, mais il n'y a pas une coordination opérationnelle qui fait que, par exemple, Barkhane va signaler à la force mixte la présence des djihadistes ici, ou qui fait que Barkhane va communiquer les interceptions qui ont été obtenues par... Il n'y a pas une coopération
Pour quelle raison? Il y a eu des rapprochements diplomatiques extrêmement forts. Bouhari est venu à Paris pour rencontrer François Hollande plusieurs fois. Ils ont dû forcément se parler, je crois. Je crois même que la France a apporté un soutien, il a donné des moyens militaires justement pour cette entité régionale. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se parle pas?
Je pense que...
On se parle au niveau diplomatique, mais pas sur le terrain. Pourquoi?
C'est la vraie difficulté. La question du renseignement est toujours une question problématique. C'est une question de souveraineté. Et il y a des difficultés, justement, à mettre en place aujourd'hui une coordination opérationnelle en termes de renseignement. Et on parle de la France. Il y a 300 000 soldats américains au Cameroun qui sont venus pour aider le Cameroun à lutter contre Boko Haram. Ça a été une décision, mais ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il y ait des attentats à Kolofata, qu'il y ait des attentats dans des villes du nord-est du Cameroun. Donc, il y a un vrai problème en termes de renseignement. Or, aujourd'hui, dans la phase actuelle et même dans la phase à venir, c'est le défi, le principal défi, c'est le défi en termes de renseignement. Moi, je pense que plutôt que de compter sur cette coopération, c'est d'aider les pays à monter eux-mêmes leurs services de renseignement, à avoir des capacités de renseignement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
D'accord, et donc ça suffit pas de leur apporter des moyens, des armes. Il faut aussi les former, et pas seulement former les armées nationales, il faut aussi former pour faire du renseignement.
Absolument.
Sauf qu'on ne le fait pas aujourd'hui.
Ce qu'on ne fait pas, il faut parallèlement à la formation militaire, à la fourniture des équipements, aider les pays à monter dans la capacité du renseignement humain et technique, les deux aspects. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et si on ne gagne pas la bataille du renseignement, la victoire sur Boko Haram sera plus longue à se dessiner.
On a parlé de cette question du renseignement, Sonia Le Gorielec, lors du forum de Dakar où vous étiez.
Oui. D'ailleurs, j'ai fait un oubli tout à l'heure, mais il y avait le président nigérien, Buhari, quand même.
Absolument, voilà.
Quand même, c'est important. Lors du panel des chefs d'État. Oui, effectivement, le renseignement, c'est quelque chose qui est revenu énormément. Après, ça restera une problématique toujours très compliquée.
Disent les puissances étrangères? Jean-Yves Le Drian était là. Quand on lui dit « on a besoin que vous nous aidiez à former nos capacités de renseignement », qu'est-ce qu'on répond? Non. On répond non. Non, mais on répond non. On dit d'accord pour les armes. Mais non pour le renseignement.
Il y a déjà une coopération de renseignement, les Français participent à cela, mais c'est quelque chose qui sera toujours compliqué à mettre en œuvre. On a du mal à le faire au niveau européen. Alors, dans des pays qui ont parfois pas la même culture démocratique que peuvent l'avoir les États européens, c'est encore plus difficile de collaborer sur des questions de renseignement, c'est évident. Mais c'est quelque chose qui est effectivement beaucoup revenu. Et moi, je retiens les paroles d'un officier sénégalais qui, lors d'un atelier, a dit que de toute façon, la question principale était toujours « on veut du pognon, du pognon, du pognon ». Le problème, c'était un peu ça aussi, parce qu'il disait, il faut aussi former les personnes. Il faut former les personnes au renseignement, il faut former les personnes à savoir utiliser les technologies. On n'a pas besoin d'avoir des contingents entiers de sous-officiers, il faut des troupes, c'est eux qui font aussi la guerre, on a besoin de troupes formées.
Donc, mais les troupes, on les forme. L'Union européenne forme, par exemple, du côté du Mali, l'armée nationale.
C'est en cours.
Mais il n'y a pas de volet renseignement.
Ça, j'en sais rien, honnêtement.
Pour l'instant, ce qui est privilégié, c'est la formation des unités combattantes, des unités opérationnelles, des fantassins, des cavaliers, etc. C'est pas le truc du renseignement. Et quand on parle de renseignement, c'est le renseignement civil et le renseignement militaire. Or, même en matière de renseignement militaire, il y a beaucoup de faiblesses. La mission des Nations Unies au Mali a dédié un contingent pour la collecte du renseignement, pour faire du développement en échange capter du renseignement humain. Mais ça reste un défi, ça reste le tendon d'Achille aujourd'hui des pays africains dans la lutte contre une secte comme Boko Haram. La question du renseignement est une question primordiale et si on ne résout pas cela...
On n'arrivera pas à éradiquer Boko Haram. On a fait des progrès en mutualisant les efforts militaires, en faisant travailler les soldats ensemble, mais ça a ses limites. D'ailleurs, peut-être un tout petit point avant de passer à la question de la Somalie avec vous, Sonia Le Gorielec. C'est aussi le fait que ce qui a été un tournant, c'est la mise en commun, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, des moyens, mais c'est aussi peut-être l'arrivée de l'armée tchadienne, qui en réalité est le pilier de ces forces. Beaucoup d'experts, en tout cas, reconnaissent une certaine efficacité de l'armée tchadienne. Il y a peut-être là aussi un des éléments qui explique la réussite, même si évidemment tout n'est pas réglé, mais de cette mise en commun des moyens. C'est que c'est l'armée tchadienne qui a quand même beaucoup, beaucoup participé à ce recul de Boko Haram.
Absolument, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, il est important de souligner que la coopération avait commencé sur un plan bilatéral. Le Tchad est allé à la rescousse du Cameroun dans un premier temps. Le Tchad est venu travailler avec le Niger, ça a dessiné les premiers pas de la coopération. Le Tchad, l'armée tchadienne est engagée. Et je crois que, comme il a été si bien dit en marge du forum par un officier avec qui j'ai discuté, ce qui est au niveau du Tchad, la culture guerrière de l'armée tchadienne a fait que l'armée tchadienne ne craint pas de perdre les hommes. Elle va au contact du feu. Alors que un militaire m'expliquait que on nous apprend à faire la guerre sans mourir. C'est ça. Aujourd'hui, la nature de la guerre a changé. Contre des gens comme des gens de Boko Haram qui partent à la guerre pour mourir, pour faire, qui sont des kamikazes, les armées africaines doivent repenser leur stratégie. Et au niveau du Tchad, une des raisons du succès, de la clé du succès de l'armée tchadienne, c'est que les Tchadiens partent au contact du feu. Dès qu'on dit Boko Haram est dans ce secteur.
Ouais, donc c'est aussi l'expérience du conflit qui fait la.
Absolument. C'est ce qu'ils ont fait au Nord Mali, par exemple. Ouais. L'armée tchadienne a participé au nettoyage de la montagne de Ziforas aux côtés de l'armée française. Donc, ça lui a, en plus de ce qu'elle avait déjà accumulé comme expérience au niveau de la guerre civile, puisque le pays a connu une guerre civile longue de 40 ans, plus l'expérience du Mali, ça a fait que le Tchad est devenu l'armée tchadienne et le fer de lance à côté de l'armée nigérienne, aux côtés des autres armées, mais c'est le fer de lance. Moi, je crois que pour aller plus loin dans la coopération militaire, à mon avis, plutôt que de voir aujourd'hui un secteur affecté au Tchad, un secteur affecté au Cameroun, c'est de travailler, de faire de l'interopérationnalité, de travailler ensemble.
Ah, parce les Tchadiens que vous, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'est tout simplement divisé le territoire.
Oui, fondamentalement, il est évident que il est intéressant de voir que l'armée tchadienne a opéré au nord du Nigeria avec l'armée du Niger, mais fondamentalement, ce qui a été fait par la force
mixte. On n'a pas créé des bataillons mixtes.
On a créé, c'est pas le cœur de la stratégie.
Ouais.
C'est pas le cœur de la stratégie. Alors que quand on remarque, les Tchadiens ont une infanterie très bonne, mais le Nigeria a une aviation formidable avec les moyens qu'ils ont. Le Niger a une autre capacité qui peut aider. Donc, à mon avis, le mieux pour l'avenir même de la coopération militaire entre les pays africains, c'est de créer de la complémentarité, la mutualisation avec chacun là où il a une valeur ajoutée par rapport à l'autre.
Sonia Le Gourielec, avant de parler de la Somalie.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on retrouve justement en Somalie aussi. Je pense que c'est la question sous-jacente aussi à l'émission, c'est qu'il n'y a pas forcément une armée africaine, c'est des armées nationales qui sont côte à côte. Pas ensemble,
qui ne collaborent pas, mais qui sont côte à côte.
Ils sont côte à côte. Et il y a des problèmes, effectivement, parfois de collaboration, d'échange. Mais en Somalie, c'est ça aussi. Le territoire est divisé en secteurs. Et chaque secteur est tenu par un contingent national.
Alors justement, venons-en à la Somalie. On se souvient que l'effondrement du régime de l'ancien président dictateur Siad Barre avait plongé le pays dans la guerre civile. L'ONU avait lancé une importante opération humanitaire à partir d'avril 92. L'ONU Somme avait essuyé des pertes terribles, notamment chez les casques bleus pakistanais notamment. Et puis quelques mois plus tard, en décembre 92, les États-Unis étaient intervenus sous mandat de l'ONU. C'était l'opération Restore Hope. Et puis, quelques années plus tard, l'AMISOM est créée par le Conseil pour la paix et la sécurité de l'Union africaine. C'est en janvier 2007, avec un mandat de 6 mois autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On parle justement de la Somalie.
This morning at 5 o'clock we advanced.
À 5h du matin, nos troupes ont progressé et se sont emparées de Barawe en seulement 30 minutes, 45 minutes en réalité. Et désormais, nous avons le contrôle de la ville. Cette ville est précisément l'endroit où Al-Shabaab avait pour habitude de mener ses exécutions, justifiées au nom de la charia. Si un soldat de la MISOM fait quelque chose d'inapproprié, je le tuerai. Nous sommes ici afin de permettre aux enfants d'aller à l'école et de vous donner accès aux soins médicaux.
Nous venons de nous emparer de la dernière ville occupée par Al-Shabaab. Désormais, Mogadiscio est entre les mains des forces gouvernementales somaliennes. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous ayons éradiqué complètement l'extrémisme dans notre pays.
Voilà, extrait d'un reportage de novembre 2014. Cette mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, mission régionale de maintien de la paix en Somalie menée par l'Union africaine avec l'aval des Nations Unies. Quand on regarde un peu la répartition des moyens, on voit qu'en 2010, en tout cas, elle comptait 5000 soldats, dont 2550 fournis par le Burundi, 2700 par l'Ouganda. Aujourd'hui, elle compte 22 000 hommes, 6000 d'Ouganda, 5400 du Burundi, 4400 d'Éthiopie et 3600 du Kenya. Mais les choses ont bougé. On va en parler tout de suite, Sonia Le Gourielec. Ces soldats luttent donc contre les Chebabs somaliens, aux côtés des forces somaliennes. Alors les choses ont avancé, mais quand on regarde, rien n'est réglé, puisqu'on apprenait par exemple cette semaine que des troupes de l'AMISOM soutenues par les forces somaliennes ont tué 7 militants somaliens d'Al-Shabaab dans le sud du pays. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de l'action de cette mission de l'Union africaine en Somalie? Est-ce qu'elles ont permis de faire reculer les Chebabs? Jusqu'où? Est-ce que vraiment ils ont reculé? Et est-ce qu'il est possible d'éradiquer de la manière, même question que je posais tout à l'heure à Sidi Kaba, est-ce qu'on peut éradiquer ces Chebabs? Sonia Le Gourielec.
Oui, alors je me permets d'ajouter aussi les Djiboutiens, les troupes djiboutiennes.
Absolument.
On ne doit pas oublier. Alors effectivement, la mission de la Mission a beaucoup évolué, comme vous l'avez présenté. À plusieurs reprises, on a cru qu'elle réussirait à éradiquer Al-Shabaab. Néanmoins, beaucoup de chercheurs ont rappelé que c'est un groupe très résilient. À chaque fois qu'on a pensé l'éradiquer, il revenait ou il modifiait sa stratégie et ses tactiques de combat.
Donc, comme Boko Haram.
Comme Boko Haram. Et ces derniers mois, en plus, on a vraiment un retour d'Al-Shabaab, puisque les troupes éthiopiennes, ougandaises, etc. ont reculé, ont laissé certaines villes qui ont été reprises par Al-Shabaab, et parfois des villes stratégiques, notamment au nord de Mogadiscio, sur des routes importantes. Donc il y a quand même un retour d'Al-Shabaab, et on a aussi une inquiétude face à l'arrivée peut-être de troupes de l'EI,
puisqu'il y a été question, l'État islamique, parce qu'effectivement, l'État islamique s'est récemment implanté, notamment dans la ville côtière de Kandala, dans la région autonome de Puntland.
Qui aurait été reprise par... il reste encore des doutes. En tout cas, ils peuvent arriver. Et puis, il y a des inquiétudes aussi concernant la propagation vers le Kenya et peut-être même plus loin, et d'attaques possibles aussi chez les pays voisins. Mais n'empêche, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a eu une augmentation des troupes, comme vous l'avez dit, qu'ils ont réussi à sortir, la MISOM est sortie de Mogadiscio. Au début, elle était vraiment dans Mogadiscio. De façon cinglante, Roland Marshall avait dit...
Il fallait débarrasser la capitale quand même des Shabaab. C'était le premier...
Mais du coup, c'était une ville simplement, quoi. Et Roland Marshall avait dit de façon cinglante qu'on pouvait l'appeler l'ami Mog, parce que ça regardait que Mogadiscio. Et là encore, le Burundi et l'Ouganda s'étaient partagé la ville. Ils gardaient certains des quartiers différents. Donc ensuite, là où la mission a vraiment évolué, c'est en 2011, suite à l'intervention kényane, l'intervention unilatérale du Kenya au sud de la Somalie, avec un peu l'objectif de créer une zone tampon, le Jubaland, dans cet espace. Et le problème, c'est que le Kenya c'était peut-être pas suffisamment préparé, c'est un peu embourbé, et finalement les troupes ont intégré la MISOM, ce qui explique l'augmentation du nombre de troupes au sein de la MISOM, et ça a complètement modifié le concept stratégique de la force, qui a dû sortir de Mogadiscio, qui a dû intégrer les troupes du Kenya, qui a dû diviser le sud du territoire en secteurs, qui est réparti par contingent. L'Éthiopie est également arrivée, a également été intégrée au sein de la MISOM. Et ça, ça a vraiment modifié la mission, et ça a permis de prendre du terrain sur Al-Shabaab.
Alors, vous disiez l'Éthiopie est arrivée. Sauf qu'entre-temps, l'Éthiopie envisage de partir.
Oui.
Il y a quelques semaines, elle a annoncé le retrait de ses troupes. Le régime a justifié son choix en parlant de contraintes budgétaires. Alors, il faut rappeler quand même quelques éléments sur l'Éthiopie, qui vit depuis plusieurs mois dans une situation d'état d'urgence. Le régime réprime à tour de bras son opposition de façon extrêmement dure. L'opposant historique, d'ailleurs, Merera Gudina, est maintenu en prison depuis quelques jours, comme beaucoup d'autres opposants. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelques semaines, les troupes éthiopiennes ont évacué 4 positions dans le centre du pays, qui ont été immédiatement reprises par les Shabaab. Comment comprendre ce retrait éthiopien ?
Alors, c'est pas très clair, parce qu'effectivement, le gouvernement éthiopien a dit que c'était un manque, il se retirait à cause d'un manque de soutien des acteurs extérieurs, notamment de l'Union européenne, qui menace de couper, de baisser le financement qu'elle octroie à la force de la MISOM. Mais c'est vrai qu'on est obligé de faire le parallèle avec la situation intérieure, avec la déclaration de l'état d'urgence dans le pays début octobre, et aussi des rumeurs, alors je le dis mais sans avoir de confirmation, des rumeurs qu'au sein des troupes qui sont présentes en Somalie, il y aurait eu des tensions entre des groupes, entre les troupes et puis des chefs tigréens, etc. Donc il y aurait peut-être amené à un retour au pays, sur le territoire éthiopien, des troupes qui étaient déployées en Somalie. Donc ça, c'est pas encore très clair, mais en tout cas, c'est inquiétant pour la MISOM parce que la MISOM est déjà en flux tendu. Il n'y a pas suffisamment de troupes. Et quand je dis ça, on peut prendre quelques chiffres. Tout simplement, les doctrines de la contre-insurrection estiment que les troupes qui représentent moins de la moitié de ce qui serait nécessaire pour stabiliser la Somalie. Donc si en plus les troupes éthiopiennes se retirent, alors est-ce que ce sont les troupes éthiopiennes au sein de la MISOM ou les milices ou les groupes éthiopiens qui sont présents sans être présents en Éthiopie, en Somalie, qui se retirent, c'est pas encore très clair. Mais en tout cas, ça aura un impact important sur la mission la MISOM. Et à cela, faut ajouter également les menaces de retrait de l'Ouganda, du Burundi. Donc il y a vraiment une grosse tension en ce moment sur la mission.
Est-ce qu'on peut faire une hypothèse, et je vais dire Sadi Kaba, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse selon laquelle finalement l'Éthiopie joue ce retrait pour dire, notamment pour dire aux Européens et qui financent en grande partie cette opération, mais peut-être aussi aux Américains, vous voyez, nous sommes indispensables. Dès qu'on retire nos troupes, les Chebabs reviennent immédiatement. Donc, si vous voulez que nous nous engagions contre les Chebabs, laissez-nous tranquilles sur les affaires intérieures, laissez-nous réprimer l'opposition. Et dans ce cas-là, si vous ne regardez pas ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, eh bien, nous serions disposés à revenir sur le terrain et à reprendre cette lutte contre les Chebabs. Est-ce que cette hypothèse est possible ?
C'est une hypothèse possible puisque ça tombe au moment où l'Union européenne ne veut plus financer pratiquement totalement la MISOM et annonce une baisse de 20-25% de son financement. C'est possible. Et quand on regarde quels sont les premiers contributeurs de troupes sur le continent africain, ce sont 4 pays qui sont des pays plutôt à une tendance autoritaire. Et donc effectivement, c'est aussi un moyen pour eux de se rendre essentiel, de se rendre essentiel effectivement au plan international parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de leurs troupes sur des territoires ou des théâtres d'opérations où on refuse, nous, d'aller.
Bien d'accord, évidemment. Donc même cause, même effet, par exemple, pour le Burundi. Au hasard, je rappelle que le Burundi, il y avait eu aussi des violences au moment où Pierre Nkurunziza avait dit qu'il se représenterait. Finalement, il s'est représenté, il a été réélu, je crois que c'était en juillet 2015. Là, même chose, c'est-à-dire que le Burundi dit « on est d'accord pour s'engager dans cette lutte contre les Chebabs, en revanche, laissez-nous faire ce qu'on veut à l'intérieur du pays ». Même chose.
Il y a un peu de ça, puisque l'Union européenne avait sanctionné économiquement le Burundi, et sauf que là, elle est en train de financer les troupes de la MISOM, et elle ne souhaite plus financer directement les troupes du Burundi.
Sédi Kaba.
Oui, moi je pense que le lien n'est pas très établi parce que l'aide de l'Union européenne est destinée à la MISOM mais via l'Union africaine. Et quand on prend le cas de ce qui est de l'aide destinée à la lutte contre Boko Haram, l'Union européenne a décidé de débloquer 50 millions d'euros pour soutenir la force mixte multinationale, mais cette aide va passer par l'Union africaine qui va la redescendre. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette énorme bureaucratie fait que cette aide n'est pas encore arrivée alors qu'elle a été annoncée depuis trop longtemps. Sur le cas spécifique de la MISOM, je crois qu'il est important de souligner que nous sommes quand même dans une opération de maintien dans une opération militaire inédite. Jusqu'ici, les opérations de maintien de la paix pour maintenir ou on était dans une opération de rétablissement de la souveraineté de l'État somalien sur l'ensemble du territoire. Et de ce point de vue, en sortant de Mogadiscio, les forces africaines qui est en Somalie ont reconquis quand même l'essentiel de la ville. Le port de Kismayo, par exemple, était aux mains des Al-Shabaab, qui faisait du commerce, qui gagnait là de l'argent qui était destiné à alimenter le recrutement. Donc, ça a été reconquis. Moi, je crois que l'erreur de la MISOM a été au moment, parallèlement à la libération du territoire, on n'a pas pensé à mettre en place des administrations somaliennes en même temps que la libération des territoires. Et du coup, les forces qui ont vocation à repartir sont reparties et la place a été réoccupée. Ça, c'est une première observation. Mais je crois qu'une des choses aussi qu'il faut souligner, c'est que aujourd'hui, on le voit dans les autres forces de maintien de la paix ailleurs. Dès qu'il y a des pertes en vies humaines, les opinions nationales et le gouvernement en place ont de la difficulté à expliquer, alors que la MISOM a payé quand même un lourd tribut à la reconquête du territoire. Il y a souvent des attentats avec 5 kamikazes, avec 50 morts de soldats ougandais. J'imagine que pour moins que ça, les États-Unis ont retrouvé 19 000 soldats. C'est pas peu, 19 soldats, 19 pertes en vie humaine, c'est immense. Mais pour ça, les Américains ont mis fin à l'opération Restore Hope en Somalie. Donc, je pense que un des mérites de la MISOM, c'est que malgré les pertes en vie humaine lourdes qui ont été infligées par Al-Shabaab, les pays ont décidé de maintenir par solidarité avec la Somalie leur présence militaire en dépit des moyens. Mais là aussi, et j'en termine, la troisième chose, c'est que la coopération interafricaine joue beaucoup au niveau de la MISOM. Les Égyptiens fournissent des tenues, l'armée algérienne fait du transport de troupes, etc. Donc il y a aussi là aussi une sorte de solidarité africaine qui gagnerait à monter pour permettre une meilleure efficacité.
Sonia Le Gorielec.
Oui, pour rebondir là-dessus, Al-Shabaab quand même contrôle encore de grands espaces ruraux au sud de la Somalie, donc ils sont encore présents et là ils reprennent en plus du territoire, c'est important de le dire. En plus, c'est vrai qu'il faut rappeler que les troupes africaines sont les seuls à vouloir prendre ce risque, comme vous l'avez dit, de perdre autant de troupes. Mais il y a aussi maintenant une pression parfois nationale pour retirer ces troupes. Je pense au Kenya, qui en janvier a perdu des centaines d'hommes dans une attaque d'Al-Shabaab. Et il y a une pression aussi interne, dans une période électorale, pour retirer les troupes. Et puis quelque chose qui a peut-être pas été fait encore de façon efficace, c'est que les troupes de la MISOM devaient se retirer et laisser la place aux troupes somaliennes. Or, elles ne sont pas encore suffisamment formées pour prendre le relais. Donc c'est pas terminé. Et surtout, il faut vraiment concentrer les efforts sur la gouvernance en Somalie.
Alors justement la gouvernance. Et puis ensuite, on parlera du G5 du Sahel et de l'Algérie. Mais depuis plusieurs semaines, on a des milliers de délégués et chefs de guerre somaliens qui procèdent à l'élection de 275 représentants qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Ils auraient dû élire un nouveau président de la République le 30 novembre dernier. Ça a été repoussé. Ça devrait se faire normalement avant le 31 décembre prochain. Mais il y a déjà beaucoup d'accusations de fraude. On ne sait pas vraiment si ça va pouvoir se faire ou pas. Est-ce que vous pensez que la Somalie va pouvoir se choisir un nouveau président ?
Elle se choisira sûrement un nouveau président. Est-ce qu'il sera légitime ? Est-ce qu'il aura le pouvoir suffisant pour contrôler tout le pays ? Ça reste encore à voir. C'est la grosse difficulté actuellement en Somalie. On essaye de recréer un État normatif comme on le connaît en Europe, un État de type weberien. Est-ce que c'est possible en Somalie ? Je ne sais pas.
En tout cas, c'est un véritable enjeu, évidemment, c'est Dikaba. La coopération militaire, c'est une chose, mais comme vous le disiez, la question de la gouvernance est aussi centrale et les deux doivent aller de pair. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut mener tout de front.
Tout à fait. Il faut
sans parler du développement économique et social que vous évoquiez tout à l'heure.
Absolument. Et la ligne des erreurs à ne pas commettre, c'est de penser que, par exemple, en mettant l'accent sur la coopération seulement, ça suffirait. Donc, il faut articuler. Il faut quelque chose de totalement. Il faut une stratégie totalement intégrée pour obtenir de bons résultats.
Afrique, le grand défi sécuritaire, Somalie, Lac Tchad, Sahel, quand les armées africaines s'unissent. On est avec Sonia Le Gourielec, on est avec Sedi Kaba. On va retrouver une nouvelle invitée pour parler du G5 du Sahel et en particulier de la place de l'Algérie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Décembre 2014, 5 pays de la région ont mis en place une entité de coopération dédiée à la sécurité, le G5 du Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.
Le G5 Sahel constitue un espace regroupant la plus grande concentration des menaces sur la paix, la sécurité et le développement. Sa création est sous-tendue par une grande volonté politique et un engagement fort des chefs d'État de circonscrire des préoccupations communes de sécurité, de développement, mais aussi et surtout de démocratie, afin de s'approprier en toute responsabilité le leadership de leur destinée dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique.
Cette voix que vous entendez, c'est celle de Najim El Hadj Mohamed, le secrétaire général du G5 Sahel. C'était en novembre 2015. On va retrouver tout de suite par téléphone Louisa Driss Ait Amadouche. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes politologue et vous êtes enseignante à la faculté des sciences politiques d'Alger. L'Algérie, justement, ne fait pas partie de ce G5 du Sahel. Pourtant, c'est évidemment une grande puissance militaire de la région. Pourquoi l'Algérie n'en fait pas partie ? Est-ce que c'est le choix d'Alger ou est-ce qu'elle a été finalement mise à l'écart ?
C'est difficile d'apporter une réponse tout à fait catégorique à votre question, mais il me semble, en vertu des connaissances que j'ai sur ce sujet, que l'Algérie n'a pas été consultée dans la constitution de cette initiative. Donc il y a eu quelque part une volonté dès le début de marginaliser l'Algérie vis-à-vis de cette initiative, mais parallèlement, je pense que la logique, la structure, les objectifs inhérents à cette initiative expliquent aussi l'absence de l'Algérie dans la mesure où il me semble que cette initiative s'inscrit dans une logique de rivalité et de concurrence avec d'autres cadres de coopération régionaux.
Alors justement, parce que vous parlez de mise à l'écart, mais il y avait déjà eu une organisation régionale, le comité d'état-major opérationnel conjoint qui avait été créé en 2010. Or, cette entité ne s'est pas montrée extrêmement active. Alors depuis, elle a repris un tout petit peu du poil de la bête pour peut-être précisément contrer les velléités des autres pays de la région à travers ce G5 du Sahel. Mais est-ce que c'est pas aussi la raison pour laquelle les autres pays ont voulu créer une autre formation, un autre format de coopération ?
Oui et non. Oui, dans la mesure où, effectivement, le CEMOC n'a pas tenu toutes ses promesses. Il était supposé consolider, renforcer et donner une véritable dimension concrète, opérationnelle à la coopération militaire et sécuritaire des États de la région, c'est-à-dire l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. La crise au Mali, puis la guerre au Nord-Mali, a bien montré toutes les lacunes et toutes les difficultés rencontrées par le CEMOC. Donc on pourrait considérer effectivement, de ce point de vue-là, que le semi-échec ou l'impuissance du CEMOC à faire face aux menaces régionales pouvait expliquer l'émergence d'une nouvelle initiative. Parallèlement, là aussi, il y a l'autre facette de la médaille. La région est, on le sait, en proie à des rivalités subrégionales et extra-régionales. Et je pense que le G5 s'inscrit clairement dans une conception dans laquelle la France, notamment, intervient en tant que puissance influente pour, sans doute, vous pourriez avoir raison, sans doute pallier aux insuffisances d'autres États de la région, notamment de l'Algérie.
Alors, justement, malgré ces insuffisances, malgré peut-être ces rivalités que vous évoquez, on sait bien sûr que l'Algérie a des moyens extrêmement importants, des moyens militaires extrêmement importants, sans compter bien sûr son expertise en matière de lutte antiterroriste. Est-ce que les pays du G5 vont vraiment pouvoir se passer de l'Algérie? Est-ce que son concours ne va pas devenir à terme absolument indispensable? Louise Adry Saïd Amadouche.
Premier élément, le G5, je ne vois pas le G5 comme une initiative purement régionale, et il est évident quand, si vous regardez les rapports de force, la structure des pays constituant le G5, et quelqu'un parlait de concentration des menaces dans la région, avec non seulement les problèmes sécuritaires mais le problème de gouvernance, les pays de G5 de toute façon ne sont pas, je pense, capables de relever les défis seuls. Maintenant, est-ce que la présence de l'Algérie dans ce regroupement aurait changé radicalement la donne? Je n'en suis pas convaincue pour plusieurs raisons. Un, la concentration des menaces dans la région n'est pas purement et exclusivement régionale. On ne pourra de toute façon pas régler le problème du terrorisme dans le Sahel si le problème du terrorisme qui commence de la Libye, de la Syrie, de l'Irak ne sont pas réglés. Deuxièmement, quelqu'un parlait du développement. Effectivement, c'est une question primordiale. Il n'est pas question, je pense, d'espérer ou de rêver mettre fin à la menace terroriste si les pays du G5 figurent parmi les pays les plus pauvres de la planète. Ce serait vraiment totalement illusoire de croire qu'on mettra fin au terrorisme si la pauvreté, l'exclusion, la marginalisation, la façon dont la migration clandestine et la migration en général ont été criminalisées en Afrique du Nord comme en Europe. On ne pourra pas sortir d'une logique, on ne pourra pas trouver de solution à long terme à ces problèmes si on continue à regarder ces problèmes comme des problèmes exclusivement sécuritaires. Quant à l'implication de l'Algérie, vous parliez des moyens importants que l'Algérie possède. Je crois qu'il faudrait relativiser les choses. Bien entendu, lorsque vous regardez une carte, l'Algérie paraît comme la puissance régionale par excellence. Or, devenir une puissance régionale en termes d'influence, en termes de projection des forces, ne se décrète pas par une loi ou par une décision politique du jour au lendemain. C'est une chose qu'il faudrait préparer, et je doute en toute franchise que l'armée algérienne soit prête concrètement, logistiquement parlant, opérationnellement parlant, à s'externaliser au-delà des supports logistiques, etc.
Oui, il y a toujours un principe de non-ingérence du côté de l'Algérie qui a du mal, finalement, effectivement, à se projeter à l'extérieur de ses frontières. Sedi Kaba, peut-être une réaction sur ce point du G5 du Sahel qui nous dit, Louise Adry Saïd Amadouche, n'est pas une initiative purement régionale.
Non, elle le reste maintenant que d'autres, c'est une initiative régionale qui a été clairement exprimée par ces cinq pays de se mettre ensemble, de concevoir une stratégie commune avec des choses très concrètes, notamment les patrouilles mixtes communes le long des frontières entre la Mauritanie, le Mali, entre le Burkina Faso et le Niger. Donc il y a une volonté sous-régionale, une volonté commune de ces pays-là. Maintenant que des puissances extérieures trouvent là un créneau pour pouvoir accompagner ou pour faire de l'ingérence. C'est tout à fait. D'ailleurs, la coopération entre le G5 Sahel la plus avancée avec un autre partenaire, c'est avec l'Union européenne, c'est pas avec la France.
Ouais.
C'est surtout avec l'Union européenne que la coopération est avancée parce que le concept séduit, le concept de la mise en commun des moyens, de la création d'une école commune de guerre et de formation de sécurité, la création par exemple d'une plateforme à Nouakchott où se trouve le siège, pour une plateforme pour l'échange de renseignements, ce sont des choses concrètes. Moi, je crois que les pays ont choisi de ne pas associer l'Algérie dans un premier temps parce que ils se disent que si l'Algérie vient, elle va prendre le leadership, elle va prendre de l'influence, on ne pourra pas être au même niveau dans un premier temps. Commençons à le faire, mais les pays n'excluent pas de coopérer, d'avoir même une alliance avec l'Algérie, et ça, c'est tout à fait positif.
Louise Adrissa et Tamadouche, un dernier point, et un point très important, celui de la coopération entre l'Algérie et la Tunisie. Parce que ces derniers mois, évidemment, le voisin tunisien, il a connu une vague de terrorisme sans précédent. On pense au musée du Bardo, on pense évidemment à cette attaque sur la plage de l'hôtel de Sousse. Plus récemment, en août dernier, on a 3 soldats qui ont été tués dans une attaque terroriste à 20 km de Kasserine. Et puis par ailleurs, on a bien sûr sur le front oriental cette situation en Libye qui a nourri le terrorisme sur le territoire tunisien. On a des allers-retours très fréquents avec le principal fief de l'État islamique à Sirte. La Tunisie, c'est devenu une base pour le terrorisme international, pour le recrutement, pour les opérations. Comment l'Algérie se protège-t-elle justement de cette menace, et est-ce qu'il y a une coopération avec Tunis pour lutter contre le terrorisme? Louise Adrissa et Tamadouche.
La coopération avec la Tunisie ne date pas de la révolution tunisienne, elle est très ancienne et elle s'est poursuivie après la chute de Ben Ali pour les raisons que vous évoquez. Elle s'inscrit essentiellement sur 3 volets. Il y a bien entendu une coopération sécuritaire très forte en termes de formation des forces de sécurité, en termes de contrôle commun des frontières, en termes de manœuvres militaires communes qui sont menées au nom de la frontière. Et vous savez que dans ces pays-là, les frontières sont un peu ne sont pas que sur le papier, et les frontières réelles sont bien plus poreuses qu'on ne le pense. Et bien le deuxième élément, c'est une coopération économique, et l'Algérie s'est beaucoup engagée sur le plan économique et financier en Tunisie, entre autres pour ne pas pousser ou pour ne pas que la Tunisie se dirige vers des prix internationaux ayant une cote très basse qui aurait rehaussé les taux d'intérêt qui auraient été très négatifs pour la relance de l'économie en Tunisie. Et il y a un dernier aspect qui me semble important vu d'Algérie, c'est ce sentiment de solidarité entre les deux populations, et la chose est extrêmement médiatisée, notamment lors des périodes estivales où énormément d'Algériens vont en Tunisie pour passer leurs vacances, pas seulement pour des rapports de qualité-prix, mais également pour exprimer une certaine solidarité avec ce que la Tunisie connaît de façon ponctuelle et ce que l'Algérie a connu de façon très problématique pendant 10 ans.
Oui, donc il y a une vraie coopération entre les deux pays et qui ne date pas de la Révolution. Tout dernier mot, Sonia Le Gourielec, je vais vous lire réagir. En guise de conclusion, on arrive au terme de cette émission.
Alors, en guise de conclusion, et pour faire le lien avec les 3 sujets, il y a quelque chose qui est revenu fréquemment, c'est le lien sécurité-développement. Il a été rappelé au Forum de Dakar par plusieurs intervenants, dont Madame Mogherini, et le président du Cap-Vert a rajouté un élément aussi, c'est de savoir comment on peut augmenter les budgets de défense, plus permettre le développement et la démocratisation dans un triptyque. Et puis surtout, le dernier point, c'est que là, on parle aussi de problèmes de stabilisation après les opérations de paix dans les 3 cas. Et en fait, un autre intervenant avait souligné le fait qu'on demande aux soldats d'être soldats et diplomates. Mmh. Or, il manque certes des moyens capacitaires, mais il manque au moins aussi des experts civils, du civilo-militaire, etc. etc. Hey, I wanna be a soldier. This is the way I wanted to be.
I Wanna Be a Soldier pour clore cette émission de musique nigériane. Merci beaucoup à nos invités Louisa Drissaï Tamadouche qui était avec nous par téléphone, mais aussi ici à Paris en studio Sonia Le Gourielec. Merci beaucoup. Je rappellerai que vous préparez un numéro spécial d'Afrique contemporaine sur les armées nationales africaines.
Nicolas Courtin et Philippe Hugo.
Et merci à vous, Sedi Kaba, d'être venu également nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Vous êtes journaliste et chroniqueur au Monde Afrique. Merci infiniment à tous les deux. On met un point final donc à ce thème sur les grands défis sécuritaires africains, mais on ne va pas être complètement éloigné de ce monde africain. Place au tour du monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et parce que depuis le début de la semaine, vous nous parlez de l'étrange fascination des Rolling Stones pour la musique noire américaine et plus particulièrement pour le blues avec lequel ils renouent un demi-siècle après leur début du côté noir. Qu'est-ce qu'on a pensé des Stones?
Un mélange d'amusement et d'irritation. On comprend pourquoi l'assassinat de Meredith Hunter par les Hells Angels lors du concert gratuit donné par les Stones à Altamont en décembre 69 a été vécu comme une bien ironique tragédie. Voilà un jeune noir, isolé, venu écouter une musique noire, jouée par des blancs, poignardé à mort en plein concert par un gang qui était censé en assurer la sécurité. Les Stones se sont toujours défendus de tout racisme, même si une chanson comme Brown Sugar est très ambiguë puisqu'il y est question du viol d'une esclave noire par son maître blanc. N'ont-ils pas œuvré à la redécouverte d'un répertoire et de musiciens quasi inconnus en dehors des cercles de spécialistes? Dans sa biographie, Keith Richards raconte la fameuse visite des Stones au studio Chess de Chicago. On entre et il y avait ce type en salopette, en haut d'une échelle, en train de repeindre le plafond. La peinture blanche lui dégouline sur le visage et vous savez quoi, c'était Muddy Waters. Manière de mettre en scène le fait que les Stones auraient tiré de la misère ces chanteurs et guitaristes de blues qui, selon l'expression, n'avaient même plus de quoi acheter des vitres pour leurs fenêtres. Lors de leur tournée américaine, les Stones ont toujours insisté pour que des chanteurs ou des groupes noirs assurent la première partie, comme Ike et Tina Turner ou B.B. King en 1969. Et lors de leur passage à l'émission de télévision Shindig en 1965, ils avaient exigé la présence de leur idole, Howlin' Wolf, un parfait inconnu pour 99% des téléspectateurs de ce show. Dans les années 80, ils ont continué à jouer avec des Johnny Hooker ou des Muddy Waters, permettant à ces derniers de conquérir un nouveau public. Et nombre de ces artistes ont d'ailleurs connu en Europe une seconde carrière parce que le public avait été initié au blues par les Rolling Stones. En outre, les Stones ont suscité un tel intérêt pour le blues que toute une pléiade d'excellents musiciens anglais se sont jetés à leur suite dans la redécouverte d'un genre musical auquel ils ont eux-mêmes énormément apporté, qu'on pense à Jimmy Page ou surtout à Eric Clapton. Quant à leur musique même, si elle s'est vite écartée du blues pour s'encanailler dans un hard rock assez poisseux, elle n'a jamais rompu avec les inflexions noires américaines de leur début. La voix de la choriste de gospel Mary Clayton a été une composante essentielle d'un morceau comme Gimme Shelter. Les Stones ont subi l'influence constante de cette musique qu'on pense à Shine a Light sur l'album Exit on Main Street qui est effectivement gospel. Mais comme l'écrit le musicologue américain Jack Hamilton dans ce livre que j'ai déjà cité, Just Around Midnight, Rock and Roll and the Racial Imagination, l'acte même de se confronter à une musique historiquement noire tout en gardant ses distances avec les corps noirs, allait devenir une nouvelle manière pour les blancs d'affirmer leur pouvoir. Et Hamilton d'embrayer sur un thème qui lui est cher, la transfiguration par les Rolling Stones de la rhétorique et du langage physique de la menace raciale. Les Rolling Stones se seraient inspirés non seulement de la musique noire, mais de la stratégie de défi des noirs américains envers les institutions. La fameuse une du Melody Maker, reprise par la presse du monde entier, vous en souvenez peut-être, « Laisseriez-vous votre sœur sortir avec un Rolling Stone ?»« Ne vous évoque rien » demande-t-il. À l'époque, la question faisait manifestement écho à cette autre qui hantait les États-Unis. « Laisseriez-vous votre fille sortir avec un noir ?» Toutes les campagnes de dénigrement et de prohibition dont les Stones ont été l'objet en Amérique du Nord, relève-t-il, rappellent étrangement dans leur motivation la rhétorique du racisme anti-noir. Ces types-là sont mal tenus, obsédés, dégénérés, sataniques. On écoute un autre morceau de l'album Blue and Lonesome qui vient de sortir, I Gotta Go. Il a été créé en 1955 par Little Walter qui est décédé en 68 dans une bagarre de rue. Les Stones cette année.
leçon de réappropriation culturelle par les Rolling Stones, Blue et Lonesome. L'album est sorti ce lundi. Merci Brice Couturier. On peut retrouver toutes vos chroniques absolument passionnantes autour de la sortie de cet album sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouvera bien sûr demain, Brice. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Olivia Jasbert.